Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème, indécision.
Voilà, bonjour à tous. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent à Saint-Nazaire. On sent que c'est la période des vacances. Les Nazariens ont dû certainement partir à la montagne. Et puis les gens de la montagne et de la plaine sont venus faire un petit tour sur le littoral. C'est formidable. Alors que Dieu vous bénisse. Et nous sommes très heureux de vous accueillir. On va méditer un texte ce matin. Si vous voulez suivre avec moi, on va prendre un passage dans l'évangile de Marc, s'il vous plaît. Voilà. Donc, évangile de Marc. Et nous allons essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans nos cœurs. On va aborder un sujet qui, tout simplement, pourrait se résumer par un mot, l'indécision. Ça vous est certainement arrivé plus d'une fois de dire, mais comment je vais faire ou qu'est-ce que je dois faire? Alors, vous avez certainement trouvé la réponse, mais on va quand même en dire quelques mots. L'indécision, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pour ce faire, je vous propose un passage dans l'évangile de Marc, chapitre 9, s'il vous plaît. Alors, je vais lire le paragraphe et puis on va simplement méditer sur un verset. Mais c'est simplement pour remettre les choses dans son contexte. Alors, 9, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents, et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. » Race incrédule, leur dit Jésus, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit, en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Le verset que nous allons prendre en considération ce matin, c'est cette parole, après avoir entendu Jésus dire à cet homme, tout simplement, tout est possible à celui qui croit. Alors aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Il y a plusieurs traductions, plusieurs versions dans la parole vivante. J'ai trouvé toujours avec le même fond, mais avec une présentation différente, il est dit ceci, Le Père répond, « Je crois, Seigneur, mais aide-moi, ma foi est si faible. » Petite nuance, dans la traduction de Tob, c'est-à-dire la traduction en français courant, il est simplement reporté ceci, « Je crois, Seigneur, aide-moi, car j'ai de la peine à croire. » C'est intéressant, hein ?« Viens au secours de mon incrédulité, » dit Louis II. Ensuite, « Aide-moi, ma foi est si faible. » Et puis, dans Tob, c'est tout simplement « Car j'ai de la peine à croire. » Alors, on va essayer de décortiquer tout cela. Et puis, comme je pense que vous êtes des gens qui ne doutaient jamais, ça va être très simple pour moi d'expliquer les choses. D'accord ? Voilà. On a souvent soutenu l'idée dans le monde, et particulièrement dans l'approche philosophique, tout simplement que le doute était un élément essentiel d'une démarche intellectuelle équilibrée. Le doute est nécessaire. Alors, il est partie intégrante de notre réflexion d'homme humaine, tout simplement. Je dirais que c'est aussi ce que beaucoup de chrétiens affirment, que le doute est constructeur de leur foi. Alors, je ne sais pas si vous partagez cet avis, peut-être que vous entendrez la conclusion et vous direz, je pense que le doute, c'est pas quelque chose qui est contre moi, c'est quelque chose qui peut me servir si je sais l'utiliser. Et c'est vrai que je crois que des chrétiens qui sont arrivés à une certaine dimension de maturité ne voient pas le doute comme une épouvante. Je doute, donc je suis perdu. Donc, c'est terminé pour moi, il n'y a rien à faire. Cependant, la seule idée du doute, il faut bien le reconnaître, pose question aux croyants, aux enfants de Dieu, parce que cette idée du doute apparaît comme une redoutable opposition aux convictions, à nos convictions. On se dit, c'est terrible. Alors, il y a des périodes dans la vie où le doute est peut-être plus fréquent, quand on fait ses premiers pas dans la vie spirituelle. Mais rassurez-vous, on peut avoir 40 ans ou 50 ans de conversion et aussi avoir des doutes. Alors, c'est quelque chose qui nous suit toute notre vie durant, parce que c'est comme ça. Je pense qu'il n'y aurait pas eu cette catastrophe et cet effondrement que nous trouvons dans le livre de la Genèse au chapitre 3, les choses auraient été tout à fait différentes. Nous aurions évolué dans un monde où là, il y avait une dominante, c'était la confiance. Avec la confiance, la paix, la sécurité. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est vrai qu'il faut bien le reconnaître, et ce n'est pas trop difficile à le faire, c'est que nous enseignons, n'enseigne-t-on pas, que le doute est un empêchement majeur à l'exaucement de nos prières. C'est vrai. Vous avez des textes aussi dans la Bible comme cela. Alors, qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? Qu'en est-il? C'est ainsi, justement, que cette réflexion, va nous amener à savoir et à faire du doute, non pas un élément de destruction, de démolition, mais qui va, parce qu'il est repris en sous-main, et parce que j'ai appris, avec la grâce de Dieu, dans la conduite du Saint-Esprit, m'appuyant naturellement sur la parole, à le transformer. Vous savez que, dans une manière générale, il est bien dit que Dieu est capable de changer le mal en bien. Alors ça, on le sait, parce qu'on en a fait l'expérience, et on en fait l'expérience tous les jours. Vous me permettez que je donne des images ce matin? Vous n'allez pas m'en vouloir? Vous ne me répondez pas, donc j'y vais quand même. Je voudrais vous apporter une image somme toute originale qui illustre notre propos. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut, vous n'allez pas m'en tenir grief. Chacun connaît les fromages. Où il va? Il y a ceux, et vous savez qu'en France, il y en a quelques-uns, de toutes sortes. Alors, il y a ceux qui se présentent en meules bien compactes. Vous savez, genre Raouda hollandais, ou je ne sais pas, vous en connaissez, vous, certainement, vous savez ce qu'il en est. Ce sont des pâtes bien compactes, hein, des pâtes lisses et très très serrées. Alors, ça fait partie du marché. Et puis, il y a également, parmi les fromages multiples, il y a ceux qui sont toujours en pâte, mais qui sont clairsemés d'une multitude de trous. Alors, vous pensez naturellement, hein, des trous de toute taille, de toute forme, et vous dites, mais qu'est-ce que font ces trous là-dedans? Parce que j'ai acheté quand même un morceau de fromage, on me vend des trous. Et on me vend du vide. Vous avez jamais essayé de faire une réclamation? Ça peut vous donner des idées. Hein. Alors, c'est le genre gruyère. Hein. Il y en a un, là, en Suisse, qui est très, très compact. Alors, ça, c'est le premier. Mais il y a aussi du gruyère avec des trous. C'est ça? Hein? Enfin, on va demander à notre ami. Il connaît bien. Il est spécialiste dans la question, je suppose. Voilà. Alors, donc, ce genre... C'est-à-dire, c'est de celui où il y a des trous, on dira, nous, pour nous, les Français, genre gruyère. Hein. Bon, là, on va résumer de cette manière. Je dirais, pour ajouter, j'ajouterais que notre foi peut être comparée un petit peu à cela, vous voyez, la pâte très, très serrée, très compacte, et puis la pâte aussi avec plein de trous. La première comparaison, imagine une foi entière, elle est serrée, elle est homogène, elle est compacte, et elle est en apparence sans défaut. Hein. Vous voyez, vous avez à peu près le rectangle comme ça, il n'y a pas de... rien du tout. Hein. C'est très bien comme ça. C'est la foi vue comme un gros morceau de certitude. Voyez. C'est bien arrêté, les contours sont bien faits, c'est donc un gros morceau de certitude. Lesquels, naturellement, certitude s'appuie avant tout sur la doctrine... et sur le dogme. Voilà. Rien à ajouter, c'est comme ça. Cette foi-là ne laisse rien passer, puisque, en apparence, eh bien, elle est parfaite. Et puis, il y a le second exemple, qui s'apparente à un morceau de gruyère ou d'emmental. Il y a encore des trous, l'emmental.
Pas tous.
Pas tous. Oh, bah alors là, je me perds, moi. Je ne sais plus où j'en suis rendu. Alors, mais enfin bon, nous on connaît les mentales avec des trous dedans, alors bon, voilà. Hein. Hein, et il est rempli naturellement de trous, naturellement. Alors, on peut penser que la première comparaison, elle est parfaite, hein, et que la seconde est incomplète, parce que vous achetez quand même quelque chose où il manque quelque chose, il y a des trous dedans. Hein. Alors, c'est incomplet, c'est mal formé, or... quand on y pense bien, on s'aperçoit qu'il n'en est rien, c'est même le contraire qui se produit. C'est ça ce que j'aimerais démontrer ce matin. Dans le deuxième cas, le morceau de fromage avec des trous, le gruyère donc et ses trous est un élément de la vie spirituelle parce que, si je réfléchis, chaque trou est un espace laissé au doute. C'est un vide. Ouais, le doute. Vous voyez, il y a la foi compacte, serrée, bien lisse. Et puis, dans l'autre comparaison, vous avez quelquefois, eh bien là, un moment où vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que cela? Le doute, selon l'Écriture, et je voudrais le redire ce matin, n'est ni un péché, ni une tare. Ça, il faut que ça rentre dans notre tête. Et surtout que ça reste dans notre cœur. Je le répète, le doute... n'est ni un péché, ni une tare. On a souvent vu des chrétiens faibles qui s'affolent, qui s'agitent, qui perdent pied, qui se disent « Oh, j'ai douté !» Ben oui, vous avez douté et nous doutons. Voilà, tout simplement, ça peut nous arriver. Alors, il faut que nous puissions évacuer un peu tout cela, parce que le doute, il existe. Et le doute existe... pour démontrer la réalité d'une foi solide, vigoureuse et active. Les cavaliers ont des éperons à leurs bottes. Et vous savez à quoi ça sert? Ça sert à stimuler le cheval. ça lui sert à le mettre, à le, pas tant le diriger, mais le stimuler. Oui, c'est ça, c'est le mot. Hein, pour lui donner, eh bien, les impulsions de la volonté de celui qui le monte. Le doute permet l'occasion d'exercer notre foi. Comme le vent, si vous voulez. Il y a des temps où il n'y a pas de vent, ça ne bouge pas. Si vous êtes en mer sur un voilier, c'est calme, c'est lisse, pas de problème, il n'y a rien du tout. Mais vous allez voir la côte très longtemps. Hein, si vous voulez prendre de grands larges. Mais par contre, quand il y a du vent, eh bien là, il va falloir activer, il va falloir manœuvrer. Enfin, moi, je n'y connais absolument rien. Mais toujours est-il qu'il y a tout un maniement d'un bateau. Hein. Et quelquefois, contre le vent, vous avancez quand même, me semble-t-il. Alors, c'est en quelque sorte une sorte d'éperon. Et ça permet d'exercer notre foi. Je reviens à cela, c'est que la foi mature est une foi où le doute a été intégré et a été transformé, mais positivement. Devant une situation de doute, je peux y répondre par le positif ou le négatif. Comment je vais réagir? Devant ces trous, devant ce vide, qu'est-ce que je fais? Je m'effondre en disant, ben, le Seigneur m'abandonne, je ne comprends pas. Mais je rappellerai au passage que Dieu ne nous a pas tant demandé de comprendre que de croire en lui, sans comprendre. Ça, c'est le principe. On devrait le savoir, on le sait, hein, bien sûr. Alors, je peux orienter ce sentiment qui n'est pas toujours très agréable. Vous avez remarqué, il est à l'intérieur de nous-mêmes. Et on se dit, mais c'est pas forcément facile à vivre. Et on voudrait s'en libérer, on voudrait que eh ben, ça change. Et on aimerait toujours pouvoir évoluer dans un monde où ben, il n'y a pas de vent, tout simplement. Où il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas d'obstacle. Mais ça, c'est irréalisable, c'est impensable. Alors, on s'aperçoit qu'on peut aller dans un sens ou dans un autre. Et je le répète, et je rassure mes frères, mes sœurs, nous nous rassurons tous ensemble, c'est qu'une foi qui est mature, une foi de maturité, eh bien, elle va rencontrer ce genre de phénomène. Mais après, c'est à moi de pouvoir transformer en quelque sorte la situation. Le temps aidant, parce que je pense que le facteur temps est important, on s'aperçoit que la confiance en Dieu évolue et qu'elle n'est pas seulement des certitudes dogmatiques ou théologiques ou doctrinales. Bon, c'est la base. Et on a commencé par là et on l'aura jusqu'à la fin. Parce que ça, il faut bien avoir une base. C'est un principe immuable et on ne le changera pas. Mais je crois que il y a nécessairement une évolution à entreprendre, où Dieu va entreprendre une évolution en nous-mêmes. Et je dis bien que ça se fera avec le temps. Vous n'allez pas vous réveiller un matin après avoir douté le soir en disant « maintenant tout est formidable, tout est merveilleux, le doute va disparaître à jamais ». C'est complètement faux. Ça n'existe pas. Et Dieu va faire que sur les bases sur lesquelles nous sommes, les bases elles sont bonnes, la parole de Dieu, elle est juste, elle est vraie, et bon, elle est sainte, hein, il n'y a pas de problème. Mais on va s'apercevoir d'une chose, c'est qu'il va y avoir un développement sur cette base doctrinale, dogmatique, parce que nous les avons reçus et nous les avons crus, mais cette confiance-là, en développement, repose de plus en plus sur une personne vivante et agissante, c'est-à-dire la parole faite chair. Et là, nous allons passer dans une autre dimension. Et nous allons suivre celui qui, eh bien, marche devant nous. Et nous allons apprendre beaucoup de choses. Plus que nous pourrions en apprendre, peut-être par une connaissance intellectuelle et cérébrale, une connaissance même très approfondie de la parole de Dieu, sur ses bases. L'Évangile, je le répète, c'est une puissance vivante. Ça, c'est essentiel. Et l'apôtre Paul l'a bien compris, puisque lui, en connaissance dogmatique ou doctrinale ou théologique, et il a quand même écrit des monuments, hein, Romains et puis le reste, Éphésiens, eh bien, il pourra l'écrire, il l'écrira à un moment donné, il dira ceci, « La lettre tue, mais l'esprit vivifie ». Et j'ajouterai, je paraphraserai, je dirais que l'esprit dans la lettre, l'Esprit dans l'Écriture, l'Esprit dans la parole de Dieu. Eh bien, elle vivifie cette même lettre. Et je pense que l'Église est appelée aujourd'hui à rentrer et aller toujours plus loin dans cette dimension-là. La connaissance, on l'a. On ne l'a jamais parfaitement et on est loin de la connaître. Mais néanmoins, le Seigneur ne veut pas que nous restions sur les éléments du début. Il veut que nous allions plus loin et que cette parole, eh bien, nous nous en servions pour qu'elle nous fasse avancer et que nous puissions contribuer à faire aussi avancer les autres. C'est de cette foi-là, et malgré les trous, j'appelais ça comme ça, malgré les doutes, que je me nourris, et qui dit nourriture, ou qui dit nourrir, dit grandir. Alors il faut aller de l'avant. On ne reste pas sur les acquis d'hier, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. On le sait, c'est là, on les garde. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Le Seigneur veut nous faire avancer. Ces trous dont nous parlions tout à l'heure, puisque l'image était prise comme ça, donc ces doutes, constituent tout ce que je ne comprends pas. Et si vous avez tout compris, vous viendrez me voir après. Et on n'est pas sorti. Tout ce que je ne comprends pas, ce qui m'échappe, ce sur quoi je me heurte, et il y en a bien des choses sur lesquelles nous nous heurtons dans la compréhension, sur Dieu, sur la manière de faire de Dieu, sur les inclinaisons et les directions là, du Saint-Esprit. Pour tout dire, ma confiance en Dieu ne repose pas sur un système de pensée évangélique, pentecôtiste, charismatique et tout ce que vous voudrez. Ni même sur une théologie bien huilée, mais d'abord, et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, sur une relation de dépendance. Une relation de dépendance qui se construit tous les jours, et j'insiste, quotidiennement, avec celui qui vit avec moi et celui qui vit en moi, Christ en moi. Et si vous avez Christ en moi, en vous, vous avez tout. Et vous avez tout. On est en train de chercher désespérément. On promène des regards inquiets de droite et de gauche en disant « Mais comment je vais faire ?» et ceci et cela. On cherche le Seigneur, mais vous savez où il est le Seigneur ? Vous savez où il demeure selon la parole de Jean ? Et là, nous avons vraiment besoin de réaliser que Christ est avec nous et il est en nous et il vit en nous et il vit avec nous. Et ça change tout, hein. C'est une manière de se positionner. Et vous savez comment ça s'appelle, ça ? Ça s'appelle l'expérience. Il y a la connaissance, la doctrine, la théologie, le dogme, etc. etc. Ça, c'est la connaissance. Et on n'en finira jamais de connaître. Hein. Avec le danger que cela peut avoir, comme Paul le souligne, c'est que la connaissance enfle. Oui. Faisons attention. Mais là, je vous parle d'une expérience d'amour. Et il nous est dit que l'amour édifie. Et ça nous laisse dans des conditions dont nous parlerons tout à l'heure. Ça se nomme l'expérience. Et une chose qui a marqué particulièrement nos mouvements, c'est que ce sont des mouvements d'expérience. Mais faisons attention de ne pas revenir en arrière aussi. Parce que quand ça vieillit, on a tendance à revenir sur les souvenirs d'hier, de ceci et cela, et ne plus vivre d'expérience. Et de croire que finalement, eh bien, le Seigneur est absent. D'en être quelque part convaincu. Il n'est plus là, mais moi je voudrais vous dire que le Seigneur est là. Alors, il n'est peut-être pas avec ceux qui, bon, ceci et cela, mais en tous les cas, le Seigneur est avec ses enfants. Et on n'a pas besoin de le chercher ailleurs, il est là. Il est présent, il est au milieu de nous. Maintenant, c'est un ressenti personnel, c'est une approche personnelle, mais ça doit être aussi notre approche à chacun. Donc, cette expérience au quotidien. Cette expérience, c'est davantage ce que je vis que ce que je sais. Évidemment, je le sais, mais ce que je sais, je dois le vivre. Écoutez bien, un homme qui s'appelle Job. Il nous a dit qu'il était intègre et droit. Il faisait tout pour plaire à Dieu. Et puis, il essayait de colmater les brèches, en quelque sorte, parce que quand il voyait ses enfants pécher, eh bien, c'est lui-même qui allait faire des offrandes en disant « pardonne-leur ». Pour lui, pour les autres, et ceci et cela. Un homme formidable, Job. Vous savez ce qui lui est arrivé ? Alors, dans le livre de Job, la traduction de français courant, il est dit ceci, parce que c'est intéressant de le prendre. « Je ne savais pas de toi, ou je ne savais, pardon, je ne savais de toi que ce que l'on m'avait dit. Mais maintenant, c'est de mes yeux que j'ai été vu. » Et là, ça change tout. Alors, nous avons reçu beaucoup des autres, de nos pères, de nos prédécesseurs, de ceux qui nous ont enseigné la Bible, de ceux qui ont marqué profondément par la parole, par la doctrine, par l'évangile, notre vie. Et Job dira à la fin de son expérience, et quelle expérience, hein, 42 chapitres de douleur, « Je ne savais de toi que ce qu'on m'avait dit, mais maintenant, de mes yeux, je t'ai vu. » Je t'ai touché avec mon cœur, Seigneur. Au fur et à mesure qu'un chrétien chemine avec Dieu, un chemin indubitablement fait d'obstacles, fait d'attaques, de remises en cause, donc de doutes, parce que c'est aussi des trous dans notre vie, c'est aussi des vides, ce sont donc des doutes, ce qui demeure mystérieux, ce qui est pour moi perplexité devient, mais tiré vers le haut, parce que je compte sur la grâce de Dieu, je m'appuie sur Dieu, pas sur moi, mais je m'appuie sur Dieu, alors tiré vers le haut devient une source de progrès. Une source de progrès et une source de victoire. Parce que on apprend beaucoup de choses lorsque les vents soufflent contre. Vous voyez, c'est pas très agréable. Il y a des questions qui se posent, de multiples questions. Mais on s'aperçoit que l'arbre le plus solide et le plus résistant, c'est celui qui pousse en haut du rocher avec très peu de terre. Il est battu par les vents. Il subit les frimas de l'hiver, les aridités ou la chaleur de l'été. Et vous avez vu ces petits arbustes de rien du tout, hein, qui sont quelquefois piqués dans les rochers comme cela. Pour les déraciner, ils sont solides. Hein. Et ben c'est comme ça un petit peu la vie spirituelle. Alors on dit, Seigneur, tu m'épargnes ceci, tu m'épargnes cela, mais le Seigneur, qu'est-ce que vous voulez? Il va le faire à notre mesure, il ne va pas nous exposer pour que nous perdions notre salut et puis que nous capitulions. Mais il aimerait peut-être quelquefois que nous le laissions faire et n'allez pas lui demander, Seigneur, envoie-moi des épreuves. Enfin, vous pouvez toujours le faire, mais enfin, moi, je réponds de rien. Faites comme vous voulez. Alors, si les convictions et les certitudes bien listes m'apportent l'intelligence de vivre selon la volonté de Dieu, ça, c'est la doctrine, c'est vrai, ça me dit ce que je dois faire. Je le sais. C'est une vérité. Ce qui m'échappe encore dans l'expérience de la vie ou dans le quotidien, me ramène à l'humilité, à être modeste. Augmente ma foi, parce que la foi, elle pousse dans un terreau de modestie et d'humilité. Ça, faut que nous soyons au clair là-dessus. Donc, cela augmente ma foi et cela m'amène à adorer Dieu. Vous voyez ? Il y a tout un crescendo pour arriver finalement à l'adoration. Merci Seigneur, je t'adore. Non pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Je t'adore. Et nos sujets d'adoration, nos louanges, notre reconnaissance et notre gratitude, c'est le dimanche matin que nous les amenons, mais tous les jours. Hein, et te dire, mais Seigneur, j'étais dans l'épreuve, j'étais dans les pleurs et dans les peines, et j'ai vu comment tu as fait. Moi, j'aurais jamais pensé à la solution de cette manière. Et le Seigneur nous étonne et nous surprend. Vous voulez être étonné par le Seigneur? Vous voulez avoir des surprises, mais des bonnes, hein? Eh bien, faites-lui confiance, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Et vous verrez que les choses sur lesquelles nous heurtons, les murs ou les montagnes qui nous semblent infranchissables, eh bien le Seigneur va nous les faire franchir. On ne sait pas comment il va faire, mais ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est de lui faire confiance. Et il va le faire. Et après, une fois que vous aurez passé l'obstacle, vous regarderez derrière vous et vers le ciel, et vous direz, mais Seigneur, mais tu es merveilleux. C'est extraordinaire ce que tu es capable de faire. Tu as passé par-dessus la tête des hommes. Tu as passé par-dessus toutes les frontières, toutes les barrières qui m'empêchaient, toutes les clôtures. Et je suis passé, Seigneur. Mais grâce à toi, hein, nous, on n'y est pour rien. On ouvre nos mains et on reçoit, tout simplement. Et de notre bouche, on le bénit, on l'adore. Et on adore Dieu parce que il est souverain absolu sur notre vie et sur toutes les choses de notre vie. Pour en arriver à reconnaître que Dieu est vraiment Dieu et que moi je ne suis pas un petit Dieu, que je ne veux pas me confier dans toutes sortes de choses qui me paraissent peut-être un petit peu... Hein, non, il n'y a pas de partage. Je reconnais que Dieu est vraiment Dieu et que moi je ne suis rien, je ne connais rien et que je ne peux rien. Et c'est quand on est dans cette, à ce stade-là, quand on est sur ces frontières-là, qu'on dit Seigneur, eh bien, tu fais tout. Dans le livre du prophète Ésaïe, il est dit ceci. C'est toi, Éternel, qui fais tout pour nous. Oui. Tout ce que nous faisons, c'est toi encore qui le fais pour nous. On a le sentiment qu'on fait tout. Hein. Eh bien, quand on a cessé de tout faire, eh bien, c'est à ce moment-là que Dieu va commencer à faire pour nous. Si nous ne le laissons pas faire, il va dire, ben, débrouillez-vous. Tout simplement, parce que c'est une question de foi et d'abandon. Et vous savez, quand le Seigneur fait les choses, il les fait mieux que nous pouvons les faire. Même si quelquefois nous sommes contents et nous sommes à nous frotter les mains parce que nous avons réussi quelque chose, laissez donc faire Dieu, vous verrez que ça sera un autre niveau encore. Ma foi me presse à aller à sa lumière, dans sa communion, dans son intimité, et à m'y abandonner. Et je ne peux plus en douter. Donc on revient au doute maintenant. Un mur de certitude ne laisse que peu de place à la conduite du Saint-Esprit. Ouais. Vous savez que Paul, quand il était en train de visiter les régions de la Turquie actuelle, il a été arrêté, il nous a dit que l'Esprit de Dieu ne lui permit pas. Et lui, il était bien décidé à y aller, hein, par deux fois. Et l'Esprit de Dieu l'a arrêté, jusqu'au moment où il s'est trouvé devant la mer, il n'y avait plus rien là, hein. Il ne pouvait pas aller plus loin. Et Dieu lui a parlé, il lui a dit, maintenant c'est comme ça que je veux que ça soit. Eh bien, c'est un petit peu la même chose. Lorsque nous sommes blindés de nos certitudes à nous, hein, même si elles s'inspirent de certaines choses appartenant à la parole, alors le Saint-Esprit, à ce moment-là, est obligé d'un petit peu nous dire, mais arrête, hein, parce que toi, tu as pensé ça, tu penses que c'est bien, mais moi, je pense que ici, c'est encore mieux, et tu verras que ça sera mieux. Il faut avancer, frères et sœurs, et se laisser diriger. Vous savez, dans le psaume 32, je voudrais simplement citer ce texte, on le connaît, hein, je pourrais le faire de mémoire, mais je voudrais quand même le restituer avec cette parole, simplement, dans le psaume 32, vous allez reconnaître ce passage. Il est dit ceci, puisque c'est une invitation, ou une promesse, verset 8, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. » Mais j'ajoute le verset suivant, « Ne soyez pas comme un cheval. » Ou comme un mulet, sans intelligence, on les bride avec un frein et un mors, dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. D'un côté, Dieu nous dit, mais laisse-toi faire, je te conseillerai, j'aurai les regards, et puis je t'émènerai, mais ne soyez pas comme un mulet ou comme un cheval. Je vous raconte une histoire d'âne. D'âne, A-N-E, c'est pas âne de la Bible, vous savez, hein. Curieux, hein. Une histoire d'âne entre deux bottes de foin. Parce qu'on raconte cette histoire, puisqu'il s'agit d'un âne qui se trouvait dans un champ face à deux meules de foin. Et notre pauvre âne, il ne savait pas où il allait devoir porter les yeux. Il y en avait une à droite, il y en avait une à gauche. Et il était devant un dilemme. Moi, je ne sais pas si les ânes ont des dilemmes, mais toujours est-il que c'est la question qui est posée. Alors, il regarde dans un sens, il regarde dans l'autre, il hésite, il recommence, et puis, ça n'en finit pas. Il ne se décide pas, il n'y a pas moyen. Alors, vous allez dire, c'est un âne qui subit le, il est traumatisé par l'indécision. C'est un traumatisme, hein, on peut dire ça comme ça. Alors il se dit, mais par laquelle je vais commencer? Il y en a une à droite, il y en a une à gauche. Elles se ressemblent, hein. Elles sont de la même taille, rien du tout, hein, pas de différence. Et finalement, il n'arrive pas à commencer. Au point que notre pauvre âne, il finit par mourir. Quand même, je vous raconte des histoires tristes. Il finit par succomber, il meurt de faim. Franchement, c'est bête. Parce que quand vous avez faim, quand vous mettez une assiette à droite ou une assiette à gauche, je mets ça à la façon des hommes, puis que vous dites, vous regardez, surtout si c'est chaud, hein, faites vite. Vous savez de quoi il est mort? Il est mort d'être resté bloqué. Ouais. Il était bloqué, comme cela peut aussi nous arriver lorsque notre vision simpliste de la foi et du doute. Qu'est-ce que l'on fait? On a la foi? Ou alors c'est le doute? Et que la foi et le doute se neutralisent mutuellement. Alors à ce moment-là, eh bien, on est au parking, on ne fait rien, on ne bouge plus, et malheureusement, ça arrive dans le peuple de Dieu de voir des frères et des sœurs depuis des jours, attendez, hein, depuis des semaines, depuis des mois, des années, qui sont bloqués sur une situation et qui disent, comme les Normands, j'espère qu'il n'y en a pas. Bon, je ne dirai pas. Vous n'avez rien entendu. Hein. Un jour, Élie a dit au prophète de Baal sur le mont Carmel, « Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Une autre traduction nous dit, « Mais jusque à quand boiterez-vous des deux côtés ?» Ou encore dans Jacques, et là c'est aussi un élément de réflexion sur la question du doute, hein, et de ce que nous disons. Alors dans Jacques, il est dit ceci, la foi est donnée simplement à qui la lui demande, hein, vous savez. Hein. Mais que le croyant la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Et en fait, d'être inconstant dans toutes ses voies, il n'en prend même pas une direction. Il ne prend même pas la bonne direction. Il reste sur place. Mes frères et sœurs, on n'est pas appelé à rester sur place. On est appelé à marcher et avancer avec Dieu. Pas d'autre chose. Naturellement. Parce que c'est ça ce que le Seigneur eh bien, veut nous conduire. Considérons les trous et les vides, c'est-à-dire nos doutes, comme des torrents qui s'écoulent vers la mer, contournant, dévalant, surmontant les rochers et tous les autres, les autres barrages qui peuvent se trouver sur le chemin. C'est ça. L'eau va passer quand même. Elle ne s'arrêtera pas. Eh bien, notre foi, elle doit couler comme cela. Et à ce moment-là, eh bien, nous allons surmonter les doutes et nous allons passer par-dessus et arriver au but. Le Seigneur a été particulièrement sensible à la foi des hommes. C'est un véritable bonheur et c'est un cadeau et c'est un trésor que Dieu nous a donné d'avoir la foi. Enfin, moi, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Enfin, en tous les cas, je vois que vous êtes très attentifs. Pourtant, un jour, quelqu'un est venu vers Jésus. Jésus descendait de la montagne, vous savez, chose extraordinaire, la transfiguration. Et un jour, quelqu'un lui a dit ouvertement son problème de doute. Est-ce qu'il vous est arrivé de parler à Dieu de vos doutes? Je vais faire le point avec toi aujourd'hui, Seigneur, parce que j'ai des doutes. On lui parle de notre foi, on lui parle de ce que l'on veut, de nos désirs, de nos souffrances, de nos peines. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Mais est-ce qu'on lui a parlé quelquefois de nos doutes? Et cet homme, eh bien, est venu. C'est exactement le texte que nous avons lu dans Marc. Ce père, qui amène à Jésus son fils qui est atteint de graves troubles du comportement. Maladie nerveuse, mais il y a derrière autre chose, hein, on le sait, mais je ne veux pas rentrer dans cette considération. Le désespoir de cet homme est perceptible, parce que lorsque l'on lit le verset 17, il dira ceci. Un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. » Un peu plus loin, au verset 20, les choses sont reprécisées. « Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba et se roulait par terre en écumant. » Et le verset 23, Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Et aussitôt, le Père lui dit, « Mais je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » C'est un appel désespéré de secours qui exprime tout à la fois, d'une part, l'affirmation de la confiance de cet homme. Il dit « je crois ». Oui. Et ça, c'est important. Hein. Il ne le dit pas après, il le dit avant. Et un enfant de Dieu, eh bien nous savons ce qu'il faut faire, c'est que nous mettons en avant notre foi d'abord. Ah, elle est loin d'être peut-être au summum, mais on affirme. Il dit « je crois ». Ça, c'est la première affirmation, mais il démontre aussi le sentiment d'une terrible, terrible et redoutable lutte intérieure. « Je crois, mais aide-moi, viens à mon secours, car je manque de foi, je chavire sous les coups de l'incrédulité. » Ce n'est pas de l'incrédulité, il y a de la foi, mais ce no man's land qui est là, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que quand on est porté sur les sommets de la foi, c'est formidable, hein, c'est la paix et la joie, et on dit « Alléluia ». Quand on tombe dans l'incrédulité, et là, c'est affreux parce que c'est l'enfer, mais ce terrain du milieu, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, justement, il lui en parle. Est-ce que quelquefois, nous demandons au Seigneur en disant, « Seigneur, j'aimerais bien que tu me remettes un petit peu ma foi en état. » Paul le dit, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. » Quelquefois, nous avançons, nous essayons de lutter contre les vents qui sont impossibles, qui sont plus forts que nous, et nous disons, « Mais Seigneur, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. » Mais est-ce que c'est la réalité? Seigneur, je voudrais faire le point avec toi par rapport à ma foi. Rafraîchis ma foi, ranime ma foi, débarrasse-la de toutes sortes de choses. Vous croyez pas que c'est un sujet de prière? Naturellement, c'est un sujet. Dans le cas de cet homme, on est loin de la plénitude de la foi dont nous parlons et dont nous nous émerveillons. Plénitude de la foi, c'est aussi une vérité. Or, Jésus est rétabli, et je tiens à le dire et à le marquer, Jésus dans cet état, dans l'état de cet homme, eh bien Jésus va rétablir et guérir son fils aussitôt. Et je vais vous dire pourquoi il l'a fait. Il va le guérir aussitôt. Si nous avions dû juger les choses, on a dit, mais bon, il n'a pas la foi, ce pauvre homme. Où il n'a pas suffisamment de foi, où il a perdu la foi, et toutes sortes de choses. Non, Jésus n'a pas regardé à ça. Il a regardé, il a bien entendu, il a dit « je crois ». Même s'il a dit quelque chose après, il a eu raison de le dire. Parce que s'il avait dit « je crois » simplement, et que la réalité n'était pas là, ben, il n'y aurait rien eu. Parce que ce n'est pas une question de le dire, ce n'est pas une question de le confesser, c'est une question de le vivre et de l'être. Alors, il faut remarquer que ce père aux abois, parce qu'il est désespéré dans une situation qui dure depuis certainement longtemps, il va faire ce que nous avons besoin de faire de temps à autre, d'avouer son combat pour croire. Seigneur, aide-moi parce que j'ai de la peine à croire. On peut le dire ça au Seigneur? Vous croyez que ses oreilles sont capables de l'entendre? Son cœur est capable de le comprendre? J'ai de la peine à croire, mais il faut le faire avec la même honnêteté, parce qu'il le dit dans un cri, et cet homme est honnête. Il répète ces choses, je l'ai dit peut-être avec d'autres mots, je crois, c'est vrai, mais pas encore assez. Est-ce qu'on est prêt à accepter qu'on n'a pas assez de foi? Oui, comme ça. Quand il n'y a pas de problème qui se présente. Mais quand il y en a un qui se présente, quelque chose de crucial et qui brûle. « Je crois, Seigneur, mais je doute encore. » C'est ça, hein ?« Je doute encore. » Vous savez que le malaise de ce père, c'est d'un mélange. C'est dans le mélange qu'il se situe. On aimerait que les choses soient toutes noires ou toutes blanches. et elles sont grises. C'est dans le mélange. Et cette ambivalence que nous avons au fond de nos cœurs, de nos âmes, ça nous rend malheureux. Ça nous rend malheureux. En d'autres termes, on pourrait traduire de cette manière. Ce père aurait pu dire à Jésus, c'est moi qui paraphrase, mais je vais un peu plus loin, mais ça reste toujours dans la pensée. Ce père s'adressant à Jésus aurait pu dire, mais Jésus, c'est toute la foi que j'ai à t'offrir. Ouais, ce « je crois ». Je n'ai pas d'autre chose. Mais sache que je crois quand même. Parce que je veux croire. Et si nous voulons croire, Dieu va réanimer, va animer notre volonté. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Et si je veux croire, eh bien le Seigneur me augmentera ma foi et me va raviver ma foi. Est-ce que nous renonçons quelquefois à croire ? Par dépit, par contrariété, par résignation, eh bien non, il ne faut pas. Si nous voulons croire, eh bien le Seigneur va nous donner un coup de main. Alors Jésus agit, et nous l'avons au verset 25, Jésus voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit. La maladie est partie. Avec l'esprit qui rendait malade. Dieu attend que j'avoue ou que je confesse ma faiblesse, mais il attend que j'avance malgré tout, dans la foi qui est la mienne. Parce que le pire, c'est de ne pas bouger. Le pire, c'est d'être... Et il y en a un qui va s'amuser avec ça, qui me met au parking et qui veut que ça dure le plus longtemps possible. Et je suis sûr et je suis convaincu que dans certains cas de situations pénibles, difficiles, chez les enfants de Dieu, d'une nature ou d'une autre, d'une forme ou d'une autre, eh bien le diable en a mis quelques-uns en stationnement. Alors que c'est pas la volonté de Dieu. Il nous faut nous débarrasser de cette fausse conception qui entraîne une tout aussi fausse culpabilité. Parce que c'est le diable qui nous culpabilise. Je voudrais donner une clé à ce que nous avons dit maintenant. Parce que c'est important. Et j'espère que nous allons nous en souvenir. De comprendre ce qui suit, ce qui vient. Le Seigneur ne s'arrête pas à nos doutes, heureusement. Cet homme n'aurait pas été exaucé immédiatement, et peut-être même jamais. Et heureusement que, lorsque nous regardons en arrière, dans certains cas où Dieu nous a délivrés, on n'était pas forcément au top, hein. Ok, c'est vrai. Heureusement, je dis. Parce que le contraire de la foi n'est pas le doute. Voilà ce que je voulais dire. Que le contraire de la foi n'est pas le doute, mais la peur. La peur. Et la peur, c'est un fléau. Et la peur, à son origine, elle remonte dans le jardin d'Éden. Et la peur nous amène à engendrer du doute. Et toutes sortes de choses. La peur. Vous vous souvenez de Pierre qui a marché sur les eaux? Il a eu la foi. Il a dit, je crois parce que tu m'appelles. Il a commencé à passer la balustrade de la barque. Il a commencé à marcher. Miracle! Oh, plus que ça, c'était un prodige, parce qu'encore ça aurait été de l'eau tranquille, mais c'était en pleine tempête. Mais nous apercevons qu'une chose, c'est que sa foi a été stoppée, nette. Non par des doutes, mais par sa peur. Et mes frères et sœurs, s'il y a un ennemi dans nos vies, c'est nos peurs. Nos peurs qui nous amènent à sombrer dans l'incrédulité, qui nous amènent à faire n'importe quoi, qui nous amènent à nous révolter, qui nous amènent à perdre la raison, qui amènent la folle du logis à s'évaporer dans tous les sens. C'est la peur. Ça, c'est notre ennemi. Peur qui nous paralyse, qui nous immobilise, qui nous neutralise et nous ballotte dans le doute. Et il y en a un qui se frotte les mains parce que tant que ça dure, il est content. Vous avez compris ça, mes frères et sœurs? J'explique, hein. J'explique pour vous, mais j'explique aussi pour moi. Hein, parce que en vous l'expliquant, j'ai vu que ça pouvait... Parce qu'on est tous relogés à la même enseigne, hein, de toute façon. Eh oui. Notre délivrance, c'est celle de nos craintes et de nos peurs. Comme le démon qui tenait l'enfant épileptique, ou l'enfant là dont nous parlons, peur qui nous saisit. Vous avez vu, il le saisit à un moment donné pour le jeter dans l'eau et dans le feu. Peur qui nous jette par terre, comme lui a été jeté par terre cet enfant. Peur qui nous raidit. On n'est plus dans la souplesse de la foi et dans l'abandon de Dieu, mais ça nous raidit. Cette peur nous précipite dans l'eau ou dans le feu du trouble. Nous ne savons plus quoi penser, nous ne savons plus où nous en sommes. Cette peur qui nous violente, cette peur qui nous réduit à l'impuissance comme si nous étions comme morts. Vous savez, il nous a dit qu'à un moment donné, quand Jésus a chassé le démon, il nous a dit qu'il est tombé raide comme mort. Eh bien, quelquefois, moi je dis que le diable arrive à un coup magistral lorsqu'il arrive sur des enfants chrétiens à les mettre par terre comme s'ils étaient morts. Ils ne sont pas morts, ils ont une vie spirituelle, mais c'est semblable, en quelque sorte. Ils ne sont ni opérants, ni agissants, parce que finalement, eh bien, il n'y a plus rien qui se passe à cause de cette toxine mortelle qui est la peur. Alors je dis bien, encore je le rappelle, le contraire de la foi, ce n'est pas le doute, c'est nos peurs. Naturellement, c'est l'incrédulité, hein, le contraire de la foi. Mais je veux dire que ces éléments qui sont dedans, ces éléments délétères, éléments terribles, notre vrai problème, et je termine, c'est elle. C'est elle. Nous ne sommes pas condamnés à rester bloqués. Vous aimez les embouteillages ? Quand il fait 40 degrés... Et vous n'avez pas la clim naturellement dans votre voiture. Sur une autoroute, on n'a pas le droit de faire demi-tour. Hein. Et là, vous êtes là, vive les vacances. Je vois déjà la grande bleue. Hey, d'accord. Mais c'est ça, hein. On a du mal à s'habituer au surplace. Mais nous ne sommes pas condamnés à rester bloqués. Avançons en faisant comme ce père qui se dégage de ses doutes, en avouant sa foi. Il le dit, mais il avoue aussi, par la même occasion, sa faiblesse, dans un sursaut qu'il va manifester. « Je crois. Tout est possible à celui qui croit. » Il répond, « Je crois. » Oui, association des deux phrases, hein, des deux textes. « Je crois. » La maturité spirituelle, parce que j'aime bien analyser un petit peu les choses, parce que c'est normal que l'on sache l'avancement, que l'on voit là où il y a possibilité de progrès. Parce qu'on parle d'avancement, de maturité spirituelle et ceci et cela, mais ça se prouve, la maturité spirituelle. Ça se prouve dans le caractère, dans les réactions, dans la réactivité. Ce n'est pas seulement qu'une expression. Donc je dis bien que la maturité spirituelle n'implique pas que le doute n'existe pas, ou de dire à la fin, après des années, moi je ne doute plus. C'est difficile. Nous savons que le doute s'introduit subtilement et tout au long de notre existence, mais il faut apprendre à le dépasser. Il faut apprendre à la surmonter pour s'approprier les trésors de Dieu. On devrait être beaucoup plus riche qu'on ne l'est. Oui, dans tous les domaines de la grâce de Dieu, mes frères et sœurs. Vous ne trouvez pas ? Non, vous êtes riche, bon. Mais vous vous souvenez qu'il y a une église, il y a une église, c'est celle de Laodicée, en disant devant Dieu, je suis riche, je n'ai besoin de rien et tout ça. Et Dieu lui répond, mais tu sais pas que tu es malheureux, tu es aveugle et tu es nu. Je connais ma Bible un petit peu. Hein. Attention. Hein. Bon. Eh oui, on devrait avoir davantage. Et si on a davantage, ce n'est pas pour nous-mêmes, pour s'en glorifier. Mais c'est pour que nous puissions glorifier le Seigneur et le partager avec les autres. Un arbre qui porte des fruits en abondance et des bons fruits savoureux, eh bien, il les partage, il les donne tout autour. Eh bien, c'est ça ce que Dieu veut. La conclusion serait la suivante. Seigneur, je crois, mais viens à mon secours. Aide-moi, ma petite foi, mais néanmoins, je te dis que je crois quand même en toi. Je termine par un exemple que vous connaissez bien. Il a été quand même pendant longtemps avec Jésus, notre brave Thomas. Vous connaissez Thomas ? Oui ? Et il est intéressant à prendre en considération. Hein. Thomas va nous apprendre une grande leçon. Il est passé du désespoir. Et là, on peut dire quand même qu'il a eu des doutes, non ? Thomas le douteur. Ouais, on peut l'appeler comme ça. Il est passé du désespoir le plus profond, terrible. Il ne voulait même plus vivre, parce que son ami Jésus, eh bien, on l'avait crucifié. Et il ne savait pas où il était. Et pourtant, il était plus près qu'il ne le pensait. Alors, il est passé de ce désespoir-là, et il est parvenu à remonter, je dis bien, parce que le terme est exact, me semble-t-il, dans l'expression que j'emploie, il est venu à remonter sur le sommet de la foi triomphante quand il a fait cette déclaration sublime dans Jean chapitre 20 et au verset 27. Et il dit ces paroles. Jésus s'adresse à Thomas et lui dit « Mais avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule. » Mais crois. Là, c'est tout est possible à celui qui croit. Je crois, Seigneur. Pourquoi, Thomas ? Regarde. Et c'est toi qui l'as dit, hein, parce que c'est pas Jésus qui l'a inventé. Il avait dit 8 jours avant dans son désespoir, si je ne mets, si je ne fais, si je ne regarde, si je ne touche. Alors, bon, ça c'est Thomas, naturellement. Mais crois. Et Thomas va lui répondre. Alors ça, moi, je trouve que c'est extraordinaire. Comme quoi, on peut descendre quelquefois dans les sous-sols au 8e niveau, et puis on peut remonter jusqu'au ciel. C'est pour ça que mes frères et sœurs qui passaient par des moments de doute, mais le Seigneur ne va pas vous laisser dans les doutes. Il va fortifier votre foi, il va vous faire remonter, mais tout en haut. Et il dira ces mots, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Alors là, il était convaincu de la souveraineté, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jésus en tire cette conclusion, que nous n'avons pas besoin de nos sens. Nos sens nous trompent avec nos doutes. Le doute se nourrit de nos sens, de ce que nous ressentons, de ce que nous entendons, de ce que nous voyons dans tout notre univers, environnement matériel. Alors il ne faut pas nourrir nos doutes avec nos sens, il faut nourrir notre foi avec sa parole. Et il dit ceci, « Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alors que le Seigneur nous bénisse ce matin, que Dieu nous donne sa grâce. On va prier quelques instants et demander à Dieu sa grâce et sa bénédiction. Et puis je vais demander à Patrick, si tu veux bien élever ta voix maintenant pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur.